le journal Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, oubliez Jupiter, Macron revient sur Terre. Le chef de l'État sort de son silence dans une longue interview à la presse écrite. J'entends l'impatience, mais on ne fait pas les choses en 100 jours, dit-il. Il justifie son bras de fer avec l'armée, envisage une nouvelle baisse des APL et demande un effort aux retraités les plus aisés. Le détail, les réactions à suivre dans un instant. Emmanuel Macron qui s'exprime alors qu'en théorie, c'est vers Matignon que les projecteurs étaient braqués aujourd'hui. Fin du suspense sur le code du travail. Les ordonnances seront dévoilées à la mi-journée par Édouard Philippe. Et dans la rue, ce sera la division, pas de front syndical contre la réforme. Force ouvrière refuse de rejoindre la CGT qui appelle déjà à manifester le 12 septembre. La centrale de Philippe Martinez est-elle isolée dans ce combat? Il est votre invité, Nicolas, à 8h20.
Le secrétaire général de la CGT qui répondra à 8h40 à vos questions. 01 45 24 7000, le Facebook Live de France Inter, Twitter avec le mot-clé le 79 Inter.
Dans ce journal également, la nouvelle poussée de fièvre dans les commissariats. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb tente de répondre aux inquiétudes des policiers. Des élèves privés de rentrée à Tours, leur école vient de mettre la clé sous la porte. Le football, les Bleus qui feraient mieux de gagner ce soir s'ils veulent jouer la Coupe du Monde. Et puis un invité surprise cette nuit à l'US Open de tennis. Pas d'interview le 14 juillet, pas non plus de conférence de presse pour ses 100 jours à l'Élysée. C'est donc dans les colonnes du Point qu'Emmanuel Macron livre le premier grand entretien de son quinquennat, interview d'une vingtaine de pages, réalisée il y a 8 jours dans son bureau à l'Élysée. Bonjour Cyril Graziani.
Bonjour.
Elle intervient cette interview après un été raté pour l'exécutif, mais pas question de mea culpa dans la bouche du président.
Et il assume tout pleinement, il prévient que quand on arrive au pouvoir, on ne fait pas les choses en 100 jours. Emmanuel Macron reconnaît qu'il s'attendait à vivre pendant des mois avec l'impatience du peuple. Pas de mea culpa donc sur les premiers mois du quinquennat, notamment après la crise qu'il a opposée avec les armées, la démission de son chef d'état-major. Il assume le temps d'écrier « Je suis votre chef » et évoque une tempête dans un verre d'eau. Emmanuel Macron adresse aussi une nouvelle pique à son prédécesseur François Hollande. « Je trouve étrange, dit-il, qu'il justifie son bilan devant des journalistes alors qu'il n'a pas été en mesure de se représenter. Entre les deux, ça ne va pas mieux. »
Pas de grande annonce dans cette interview, mais des précisions utiles sur plusieurs points.
Alors, si dans un premier temps, il avait au cœur de l'été considéré que la diminution de 5 euros des APL était, selon une indiscrétion du Canard Enchaîné, une connerie sans nom, là, Emmanuel Macron envisage d'aller au-delà, mais dans le cadre d'une transformation profonde qui doit, selon lui, faire baisser les loyers. Le chef de l'État défend également la diminution des emplois aidés, qualifiés de perversion, la hausse de la CSG. Là, il demandera un effort aux retraités les plus aisés en faveur des jeunes et des actifs afin de récompenser le travail. Le président promet également la fin du tirage au sort à l'entrée de l'université.
Enfin, cette sortie présidentielle confirme un virage dans la communication de l'Élysée.
Eh bien oui, l'Élysée a dû s'y résoudre après cet été chaotique. La parole présidentielle devait se faire rare. Là, clairement, on change de braquet. Nomination d'un porte-parole, interview fleuve de rentrée. Mais au-delà, ce qui reste, c'est cette volonté de ne pas faire exister son Premier ministre. Un jour, avant le discours de politique générale d'Édouard Philippe, Emmanuel Macron avait réuni le Congrès. Aujourd'hui, alors qu'à Matignon, on s'apprête à présenter les ordonnances, son temps fort de la rentrée, le président lui coupe à nouveau l'herbe sous le pied, comme si, une nouvelle fois, il voulait signifier qui est le chef.
Et d'ailleurs, merci Cyril Graziani. Emmanuel Macron tord lui-même le cou à Jupiter et à cette image de président maître de la foudre. Je n'ai jamais dit que je me voyais comme Jupiter. Je tiens à la confrontation et au débat. Sur la scène internationale, Emmanuel Macron promet de ne rien laisser passer à Vladimir Poutine sur le dossier ukrainien. Il ironise sur ses conversations avec le président turc Erdogan. Je suis celui qui est obligé de lui parler tous les 10 jours. La scène internationale n'a pas grand-chose de cool, conclut le président, qui revendique également une part d'héroïsme en politique, on en parlait tout à l'heure. Deux réactions, d'abord celle d'Eduardo Riancipel au Parti Socialiste. Les mots, c'est bien, les actes, ce serait mieux.
Il a une vision, il a une conscience historique, il veut projeter la France dans ce 21e siècle, mais la politique qu'il est en train de mener, le libéralisme qui n'est pas une véritable rupture avec ce dont la France a besoin. Et je crois que c'est ce décalage-là qui fait qu'en fait, sa politique aujourd'hui n'est pas à la hauteur de l'ambition qu'il affiche.
Voilà pour le secrétaire national au PS, Eduardo Riancipel. Chez les Insoumis, Éric Coquerel se moque de l'héroïsme politique convoqué par le président. Ce n'est que du marketing, dit-il. Et au Front National, Sébastien Chenu parle d'un président otage de l'Europe.
Il a une obsession qui est le coup de rabot. Et ça masque aujourd'hui son impuissance totale, non plus à réformer. D'ailleurs, vous avez vu qu'il n'utilise plus le mot faire des réformes, mais il parle de transformation. Il a donc compris qu'en fait, il était mal engagé et qu'il allait juste essayer de transformer quelques dispositifs pour faire plaisir à l'Union européenne, mais fini le temps de la réforme en réalité.
Le député du Front National, Sébastien Chenu, interrogé par Frédéric Pétezo.
Il est 8h05, évidemment, le timing de cet entretien ne doit rien au hasard.
Oui, au moment où le gouvernement abat ses cartes, enfin dans la réforme du Code du Travail, premier marqueur social du quinquennat, les partenaires sociaux en auront la primeur ce matin, avant que le Premier ministre ne détaille les ordonnances à la mi-journée. Bonjour Michaël Thébault.
Bonjour.
Chef du service économie de France Inter, sur l'un des points les plus sensibles de la réforme, Emmanuel Macron vend la mèche ce matin dans cet entretien au Point. Il s'agit de la possibilité laissée au patron de négocier directement avec les salariés, là où il n'y a pas de délégués syndicaux. On ne savait pas où la mesure s'appliquerait précisément. Eh bien, finalement, ce sera uniquement dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Ah oui, c'est tranché, hein. Il sera donc désormais possible de négocier des accords d'entreprise sans la présence de syndicats jusqu'à 50 salariés, effectivement. Ce qui signifie que le patron pourra négocier directement avec le ou les représentants du personnel, s'il y en a, ou avec les salariés eux-mêmes. Un contournement des centrales syndicales qui concerne 95% des entreprises françaises. Mais ne vous y trompez pas, hein. C'est un véritable geste vers les syndicats, car ce seuil des 50 salariés était ce qu'on appelle un chiffon rouge. Pas au-delà, disaient les centrales. Quand le MEDEF, lui, espérait pouvoir se passer des syndicats jusqu'à 300 salariés, le patronat qui pourra tout de même se consoler avec une simplification radicale, c'est l'expression d'Emmanuel Macron, des instances de représentation du personnel, il n'y en aura plus qu'une seule, fusion des CE, CHSCT et DP, avec à la clé bien sûr une baisse du nombre d'élus et surtout des heures de délégation.
Alors pour le reste de la réforme, il faudra encore patienter quelques heures. Quels sont les points les plus attendus qui donneront à la fois la tonalité de la réforme et sans doute de la réplique syndicale?
Ils sont encore nombreux, mais il y en a deux principaux. D'abord la question des prud'hommes, là le chef de l'État est un peu plus flou, mais le principe est acté. Il y aura bien un plancher et un plafond aux dommages et intérêts dus par les employeurs à leurs salariés en cas de licenciement abusif. Dans 70% des cas, les patrons perdent au prud'homme et déboursent en moyenne 25 000 euros de sanctions, parfois beaucoup plus. En tout cas, selon eux, c'est toujours trop. On verra donc où le gouvernement met le curseur, vraisemblablement autour de 20 mois de salaire maximum. Enfin, reste aussi la délicate question des référendums. À la seule initiative du chef d'entreprise lui-même, le mot référendum ne devrait pas être retenu, mais le principe, oui, seulement dans les plus petites entreprises, moins de 11 salariés, voire moins de 20. Réponse à midi.
Merci. Fin du suspense, effectivement, en fin de matinée. Merci, Michaël Thébault. Encore un géant américain dans le collimateur du fisc. Après Google, qui vient d'échapper à un redressement fiscal, c'est Microsoft qui est visé par les services de Bercy. Il lui réclame 600 millions d'euros, alors que l'entreprise n'a payé l'an dernier que 32 millions d'euros d'impôts en France.
Et des millions en plus, Marc, les policiers aimeraient bien en avoir, justement.
Des commissariats parfois insalubres, pas assez de gilets pare-balles pour tout le monde. Cet été, la fronde s'est étalée sur Internet, où une association de policiers a mis en ligne les clichés censés illustrer ce grand malaise, une sorte d'album des commissariats les plus pourris de France. Hier, leur ministre Gérard Collomb a tenté de leur répondre. C'était à Beauvais, lors d'une visite dans un commissariat de dernière génération. Emmanuel Leclerc.
Gérard Collomb n'a pas contesté le choc de photos que ses services connaissent bien et depuis longtemps avec les albums des bas-fonds quotidiens de la police nationale portés par les syndicats. Cette fois, c'est par l'Union des policiers nationaux indépendants. Et c'est sur Internet une défiance publique dans la lignée des rassemblements sauvages de nuit l'année dernière. Le nouveau ministre de l'Intérieur a juste rappelé la chute des budgets à la fin des années 2000 et le début d'un rattrapage récent et qui va se poursuivre. Gérard Collomb.
Je veux bien qu'il y ait de la défiance. Simplement, il y a 3 mois que je suis là. Donc en 3 mois, je n'ai pas repeint de mes petites mains tous les commissariats de toute la France. Mais dans 2 ans, peut-être, ils pourront dire si effectivement c'est toujours aussi vétus. Et moi, je parie qu'ils me feront un concours de photos pour me les envoyer et montrer comment la réalité, pour reprendre un mot du président, s'est transformée.
Dans l'entourage du ministre de l'Intérieur, on se demandait surtout hier à Beauvais si cette police que l'on ne saurait voir entre cafards, fissures et gilets pare-balles hors d'usage, c'est bien la meilleure façon pour les policiers en colère d'attirer leurs meilleurs futurs jeunes collègues possibles. 10 000 au total espérés dans la police et la gendarmerie dans les années à venir.
En bref, des nouvelles de l'assaillant de Levallois-Perret, l'homme qui avait précipité sa voiture sur des militaires de l'opération Sentinelle, faisant 6 blessés au début du mois d'août. On apprend ce matin qu'il a été mis en examen par un juge d'instruction avant-hier soir. Il sera placé en détention dès que son état de santé le permettra.
Il est 8h10, merci d'écouter Inter, Marc. Après le Texas, la tempête Harvey s'abat désormais sur la Louisiane.
Toujours les mêmes images de pluie diluvienne. Sur place, la tempête fait revivre le souvenir douloureux de l'ouragan Katrina qui avait ravagé la ville de Saint-Louis en 2004, ville située sous le niveau de la mer. Au Texas, l'heure de la décrue a semble-t-il commencé. Des avions décollent à nouveau des deux aéroports de Houston. On estime qu'au moins 30 000 habitations ont été endommagées. Quant au bilan humain, il est désormais de 33 morts. En Syrie, pas de pitié pour les djihadistes. Le groupe État islamique avait négocié un accord avec le gouvernement syrien et avec le Hezbollah libanais pour permettre à des centaines de combattants et à leurs familles de quitter le Liban pour rejoindre les zones de combat en Syrie. Mais la coalition internationale menée par les États-Unis ne l'entendait pas ainsi. Elle a largué des bombes hier pour empêcher cette évacuation. Omar Waman.
Parti lundi de la frontière libanaise, ce convoi de 17 bus a traversé toute la Syrie avant d'être stoppé net à l'approche de la destination finale, la ville d'Abu Kamal, près de la frontière irakienne contrôlée par Daesh. Pour empêcher le cortège d'avancer dans ce désert syrien, les avions de la coalition internationale ont creusé un cratère sur la route et détruit un pont. Dans ce convoi voyagent près de 670 personnes, des djihadistes de Daesh munis d'armes légères et leurs familles, en vertu de l'accord conclu avec le régime syrien et le Hezbollah libanais. Un accord inédit qui a provoqué la colère de Bagdad alors que l'armée irakienne livre une de ses dernières batailles contre les djihadistes après sa victoire à Mossoul. Cet accord d'évacuation est également très critiqué au Liban, où les habitants très nombreux ont exprimé leur indignation. Ils ne comprennent pas qu'on ait pu laisser partir des combattants de Daesh soupçonnés d'avoir exécuté au moins 8 soldats libanais enlevés il y a 3 ans.
Inter, 8h12, des élèves privés de rentrée, Marc, à la dernière minute.
Ça se passe à Tours, où une quarantaine d'élèves devaient faire leur rentrée dans une école privée de coiffure, mais au dernier moment, l'établissement vient de mettre la clé sous la porte, les comptes sont dans le rouge et les élèves, eux, complètement pris de court. Kevin Blondel.
Vacances scolaires paisibles, achat des fournitures, la rentrée qui se profile et vendredi dernier, un coup de fil vient tout chambouler, raconte Aurélie, la maman.
On a appris par le directeur que l'école fermait, qu'il déposait le bilan et qu'il n'y aurait pas de rentrée scolaire le 4 septembre pour tous les enfants du jour au lendemain.
Plus d'école, plus d'employeurs non plus. Hein. Marie alternait entre cours et travaille dans un salon. L'ado est sous le choc aujourd'hui.
Ah bah oui, c'est stressant, on ne sait plus quoi faire. On pensait tous se retrouver bien à notre école, tout. C'est pas la rentrée rêvée, non.
Bon, Marie a bien trouvé une nouvelle école privée, 3000 euros l'année qui s'ajoutent aux frais de scolarité déjà avancés par ses parents pour l'école qui vient de fermer.
Nous, on a été obligés de faire un crédit pour payer cette école. Financièrement parlant, ça se termine pas trop bien pour nous parce qu'on a perdu quand même 2500 euros, le prix d'une année. Le directeur, verbalement, nous dit qu'on sera remboursé, mais tant qu'on n'a pas d'écrit, on ne peut pas savoir si c'est du lard ou du cochon. Hein.
La situation de l'école de coiffure sera examinée par le tribunal de commerce mardi prochain. D'ici là, les comptes sont gelés. Son gérant, lui, se dit navré. Il assure que les parents, dans cette situation, seront remboursés, quitte à payer en partie de sa poche.
Pas le moment de flancher pour les Bleus. L'équipe de France de football reçoit les Pays-Bas ce soir en qualification pour la Coupe du Monde 2018. Une victoire serait la bienvenue. Mais chez les Bleus, ce n'est pas vraiment la grande force. Varane est blessé, tout comme Payet. Dembélé est resté à Barcelone. Et la pépite Mbappé n'a pas joué depuis début août. Pas forcément le meilleur des scénarios pour un match aussi important, Sébastien Hazard.
Il y a comme un hic, une petite boule dans la gorge. Pas question d'être alarmiste, bien sûr. Didier Deschamps, c'est son rôle d'ailleurs, range la défaite de juin en Suède au rayon mauvais souvenir. Une simple péripétie pour le sélectionneur. Un peu plus, reconnaît le défenseur Samuel Umtiti.
Une défaite, c'est toujours une gifle. Hein. Cet échec nous a fait, on va dire, du mal. Mais maintenant, voilà, on va se relever. C'est peut-être des choses qui arrivent, mais c'est à nous de faire le nécessaire pour rattraper tout ça et pour se qualifier.
Volontaire, rassembleur, le défenseur tricolore, pas plus d'incertitude que lors des autres rendez-vous, insiste pour sa part Hugo Lloris, auteur de la fameuse bourde en Suède. Même si tout autre résultat qu'une victoire pourrait avoir des conséquences sur la suite, admet du bout des lèvres le capitaine de l'équipe de France.
On n'est pas là pour faire de la fiction, mais vraiment d'être concentré sur ce match qui est très important. L'objectif principal, c'est bien sûr de se rendre à la Coupe du Monde. Après, l'objectif premier, c'est bien sûr de finir en tête de ce groupe. Il y a toujours l'éventualité du barrage, mais pour le moment, on n'y pense vraiment pas.
Inutile de se faire peur pour rien, c'est vrai, mais entre les absences, le mercato pouvant perturber certains joueurs, et les dernières prestations d'Antoine Griezmann, par exemple, pas franchement convaincantes. les Bleus marchent un peu sur des œufs.
Les sports encore, la déception des volleyeurs français, champions d'Europe en titre. Ils quittent l'Euro avant même les quarts de finale sortis hier soir par la République tchèque. Enfin, en tennis, les deux numéro un français à la trappe à l'US Open, Kristina Mladenovic et Joe Wilfried Tsonga, font déjà leur valise. Parmi les rescapés français du tournoi, il y a tout de même Nicolas Mahut. Il a dû batailler 5-7 pour se qualifier au bord de l'épuisement, lui qui est passé par les qualifications. Juste après le match, Fabrice Abgral est allé à sa rencontre et là, surprise, le joueur lui a donné son secret caché dans la messagerie de son téléphone portable. Écoutez la question et la réponse.
Qu'est-ce qui vous fait tenir là? Parce que vous êtes extrêmement fatigué entre les qualifications et le premier tour en 5-7. Là, de nouveau 5-7, qu'est-ce qui vous fait tenir là?
Tu veux que je te dise? Mais je vais faire écouter qu'une seule fois. Donc je vais te faire écouter.
Bonjour papa, j'aimerais que tu suis mes conseils, mets-toi au filet et tu tires tout doucement dans des moments importants et fais un service volé et fais des revers, des fois forts, pour que tu gagnes le match. Gros bisous.
Voilà, la voix que vous venez d'entendre, c'est celle du fils de Nicolas Mahut, Nathanaël, 6 ans. Déjà plein de bons conseils pour papa. Enfin, ils seront tout nus et sans doute tout bronzés. Un espace pour les naturistes ouvre ce matin au bois de Vincennes, à Paris. C'était une promesse de la ville, un espace de 7000 mètres carrés tout près de la réserve ornithologique. Il s'agit d'une... Oui, il n'y a pas de rapport, il s'agit d'une expérimentation. Les joggeurs et autres promeneurs seront prévenus tout de même par des panneaux d'affichage qui évitera quelques surprises.
Merci Marc Fauvel. On parle bien du bois de Vincennes, hein, pas de Boulogne.